Il est des textes que nous ne choisirions pas si nous n'étions pas dans une série. Le texte que nous allons méditer ce matin en fait partie. Ce n'est pas un texte que l'on prendrait spontanément. Et néanmoins, ce texte, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous exhorte, qui nous encourage, qui nous reprend, qui nous corrige. Et c'est elle que nous voulons écouter ce matin. Seigneur, que ta parole soit vivante au milieu de nous, que nous puissions nous mettre à son écoute, que tu ouvres nos cœurs et que nous puissions être réceptifs à ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Je lis dans Jacques au chapitre 5. Jacques au chapitre 5, les 6 premiers versets. Et je lis dans la Nouvelle Bible Second. À vous maintenant, les riches, pleurez, hurlez à cause des misères qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille sera pour vous un témoignage. Elle dévorera votre chair comme un feu. Dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors. Il crie le salaire dont vous avez frustré des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Vous avez vécu sur la terre dans le confort et le luxe. Vous vous êtes repu au jour de la tuerie. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste. Il ne vous résiste pas. Jusque-là, la lecture de la parole. Avant de réagir directement au texte, j'aimerais vous poser une question. À quoi devrait ressembler l'Église? Si vous pensez à l'Église telle que vous la rêvez, est-ce que ça ne devrait pas être un lieu de havre, un lieu de paix? Est-ce qu'on ne devrait pas y voir l'amour du Christ à l'œuvre? Ne devrait-on pas observer une égalité de traitement entre tous, entre les pauvres et les riches, entre les gens des différentes ethnies, entre les différentes couches sociales? Est-ce que nous ne sommes pas tous frères et sœurs en Christ? Or Jacques, dans cette lettre, il s'inquiète. Il s'inquiète de voir les toutes premières églises formées déjà partir à la dérive sur un certain nombre de sujets. Et notamment, il observe qu'il y a dans ces églises des problèmes, des conflits, et que, pour bonne part, ces conflits sont liés au fait que l'Évangile n'a pas vraiment atteint les personnes, les chrétiens, jusqu'au plus profond d'elles-mêmes, qu'il y a des choses qui n'ont pas été transformées dans leur vie. Les nouveaux croyants restent influencés en partie par le monde ambiant. Ils continuent d'agir comme ils agissaient précédemment et comme on agit autour d'eux. Et cela se traduit par quoi? Eh bien, Jacques constate que dans l'Église, on fait des distinctions entre les pauvres et les riches, que les riches reçoivent des honneurs, de la considération, alors que les pauvres sont souvent laissés pour compte. Il observe que cela met les relations entre les frères et les sœurs en tension, que ça met ces relations à dure épreuve. Dans l'Église, apparemment, certains s'emportent. Certains se sont mis en colère. Et Jacques doit mettre en garde ceux qui n'ont pas su tenir leur langue en bride, ceux dont la bouche a débordé de médisance. Les personnes que l'on pensait peut-être être les plus spirituelles ne sont pas forcément celles auxquelles on pensait. Jacques nous dit que les personnes spirituelles sont celles qui savent écouter la parole et ensuite la traduire en actes. Or, que dit la parole ? La parole dit de ne pas faire de favoritisme, d'être des artisans de paix, de prendre soin des orphelins, de la veuve, d'aimer son prochain, de veiller à ne pas pécher. Et si quelqu'un prétend croire, mais dont tous les actes démontrent le contraire de ce qu'il professe, Jacques dit que sa foi est stérile, qu'elle ne sert à rien. Et elle dit, faites attention, vous professez avoir la foi, mais quelles sont les relations que vous entretenez entre vous ? Veillez à ce que vos paroles soient bienfaisantes. Ne dites pas du mal des autres. Arrêtez vos petites ambitions personnelles. Cessez de ne penser qu'à vous. Revenez à Dieu, dit Jacques. Approchez-vous de lui, reconnaissez votre misère, menez le deuil, pleurez, et Dieu vous fera grâce. Et Jacques continue en disant, mais il y a parmi vous des gens qui font des projets, qui veulent mener leurs affaires sans se préoccuper de Dieu. Eh bien, faites attention, vous ne savez pas de quoi votre vie demain sera faite, peut-être que le Seigneur vous stoppera subitement. Et alors, à quoi aura servi votre vie ? À rien. Si vous n'avez cherché qu'à être un petit Dieu et à vous servir vous-même des autres. Voilà en quelques mots le contenu des quatre premiers chapitres de la lettre de Jacques. Jacques fait tout par rapport au problème qu'il a pu observer dans ses églises naissantes, fait tout pour amener son lecteur à réfléchir, à s'interroger, à se demander si la foi qu'il professe réellement change sa manière d'être avec les autres. Alors après qu'ils viennent de s'adresser aux orgueilleux, à ceux qui planifient leur vie comme s'ils étaient leurs propres maîtres, Jacques s'adresse maintenant au chapitre 5 aux riches. Aux riches qui sont dans l'Église, vraisemblablement des riches commerçants, des gens qui ont un petit commerce, des gens qui ont des ouvriers, et de manière plus générale à l'ensemble des riches. Jacques leur parle à la manière des prophètes de l'Ancien Testament. Il dénonce les injustices. Il les avertit que s'ils ne changent pas, le jugement de Dieu va s'abattre sur eux. Et voilà qu'il dit au verset 1 et 2, « Votre richesse est pourrie. Pleurez, lamentez-vous à cause des misères qui vont fondre sur vous. Prenez le deuil, dit Jacques. La situation est grave. Vous allez endurer les misères du jugement de Dieu. Vous allez vous rendre compte que vos agissements sont contraires à ce que l'Éternel demande de vous. Vous n'êtes pas dans l'Évangile, dans la manière dont vous gérez ce que Dieu vous a donné. Alors, quels sont les crimes ? Quels sont les problèmes de ces riches ? Eh bien, Jacques évoque trois problèmes qui sont des problèmes symptomatiques d'un ensemble de problèmes plus importants. Mais il dit au verset 4, « Vous n'avez pas payé vos ouvriers. » En d'autres termes, ils ont travaillé pour vous. Et à la fin de la journée, vous ne les avez même pas payés. Vous ne leur avez pas donné ce qui leur revenait. C'est du vol. Et ce salaire qui n'a pas été versé est comme un cri qui monte jusqu'au ciel. Cette clameur monte jusque vers l'Éternel des armées. L'Éternel de la justice. L'Éternel qui ne va pas laisser les choses impunies. Et ce problème est un vieux problème de patrons, de gens qui ne versent pas correctement le salaire ou pas un salaire suffisant et digne pour leurs ouvriers. Même déjà dans le Deutéronome, nous retrouvons la même problématique. Deutéronome 24 dit « Tu n'exploiteras pas le salarié qui vit dans la misère et la pauvreté, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers en séjour dans ton pays, dans ta ville. Donc en d'autres termes, même s'il n'est pas ton frère, tu vas prendre soin de lui. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sinon, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donc, premier problème que Jacques pointe du doigt, de l'injustice dans les relations entre maître et ouvrier. Deuxième situation que Jacques pointe du doigt, verset 5, vous vivez ici-bas dans le confort et le luxe. Vous vivez comme si tout vous était dû. En plus, vous vous procurez cette richesse sur le dos des plus pauvres. Vous les exploitez afin de vous enrichir. On a là un vieux problème. Dans les pays les plus riches, il existe des gens qui sont prisonniers de la pauvreté. Et dans les pays les plus pauvres, il existe des gens qui se vautrent dans le luxe, dans le confort. Et malheureusement, le Seigneur nous a dit que nous aurions toujours des pauvres au milieu de nous. Mais ce n'est pas une raison pour être fataliste. Ce n'est pas une raison pour rester les bras croisés et ne rien faire. Ceux qui se complaisent dans le luxe, qui vivent sans scrupules à côté de gens qui sont des laissés pour compte de ce système, ceux qui se satisfont d'écarts de richesse indécents, ceux-là devront rendre compte de la rudesse, de la cruauté de leur attitude. Il existe aujourd'hui des écarts de richesse qui sont indécents. Je ne crois pas que l'Évangile nous amène à vouloir que chacun ait un salaire strictement similaire. Il peut y avoir des différences. Il peut même y avoir un salaire au mérite. Mais ce qui est indécent, c'est quand ces écarts entre les plus pauvres et les plus riches prennent des dimensions de 1 à 50, 1 à 100, 1 à 1000. Ce n'est plus raisonnable. Et verset 6, Jacques pointe un troisième problème. Il dit, par vos agissements, vous avez assassiné le juste. Vous l'avez opprimé, vous l'avez exploité, vous l'avez affamé. Vous n'avez pas procuré des conditions de travail salubres. Vous avez méprisé toutes ces petites mains. Vous vous êtes servi de ces gens. Vous les avez utilisés comme des outils de production. Vous les avez déshumanisés. Vous les avez tués. Peut-être pas tué physiquement. Encore que quand des gens travaillent de manière servile, on voit que leur vie est souvent bien plus courte que ceux qui ont une position de cadre et qui ont des horaires de bureau. Mais souvenez-vous de Jésus qui disait que celui qui hait son frère est un meurtrier. Et ça veut dire que celui qui ne fait rien pour empêcher la ruine des autres, celui qui voit les autres être détruits par une vie difficile à côté d'eux, ou ceux qui détruisent la vie des autres en étant rudes en affaires, ceux-là, nous dit Jacques, agissent comme des meurtriers. Vous vous souvenez peut-être de cette parabole qu'un jour Jésus a racontée. Une parabole avec un roi, des brebis et des boucs. Ils sont là pour être jugés. Le roi juge les brebis, ensuite il s'adresse au bouc. Et voilà ce qu'il dit au bouc, Matthieu 25. Éloignez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Et ils répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. On a des textes comme ça, qui sont des avertissements solennels de Dieu, qui nous disent que Dieu ne va pas épargner le coupable, qu'il est le Dieu des armées célestes. Et ça nous interroge sur l'usage que nous faisons des richesses que Dieu nous donne. Comment les gérons-nous? À quoi mon cœur est-il attaché? Où se trouve mon trésor? Au IVe siècle, donc dans les années 380, il y avait un évêque à Milan qui s'appelait Ambroise. Un jour, cet évêque Ambroise a vendu les biens de son église pour acheter la liberté de quelques prisonniers. Il était condamné par les autorités de son église qui l'ont critiqué pour cette dilapidation des biens de l'église. Et voici ce qu'il leur a répondu. C'est ce qu'il a écrit. Celui qui a envoyé ses apôtres sans or a aussi rassemblé ses églises sans or. Et si l'église a de l'or, ce n'est pas pour le garder, mais pour le distribuer et pour subvenir aux nécessités. Est-ce qu'il faudrait garder ce qui ne sert de rien? Est-ce que vous ne vous souvenez pas dans l'Ancien Testament des Assyriens et de toute la quantité d'or et d'argent qu'ils ont volé dans le temple du Seigneur à Jérusalem? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que le pasteur prenne ses réserves d'or et d'argent pour aider à nourrir les pauvres, plutôt que d'avoir un ennemi qui commette un sacrilège dans le temple et emporte tout cet argent? Est-ce que Dieu ne va pas dire « Pourquoi as-tu accepté que tant de pauvres meurent de faim, puisque tu avais de l'or pour leur acheter de la nourriture ? Pourquoi as-tu laissé mener en captivité tant de pauvres gens sans les racheter de leur esclavage ? Pourquoi en as-tu laissé tuer certains ? Il aurait mieux valu garder ces personnes vivantes que d'avoir des métaux morts. » Aux yeux du Seigneur, les personnes sont bien plus importantes que l'or et l'argent. Et c'est ce que Jacques cherche à dire en dénonçant l'avidité, en dénonçant le confort. Et je reviens aux trois premiers versets de ce chapitre 5. Quand Jacques dénonce les comportements injustes au verset 1, il s'adresse à ceux qui se sont enrichis au détriment des plus faibles. Et il leur dit, pleurez, hurlez à cause des misères qui viennent sur vous. En d'autres termes, la colère de Dieu est imminente. Dieu va s'en prendre contre les riches qui sont pleins de méchanceté. Le châtiment va tomber sur eux, sur leurs richesses injustes. Ce qu'il faut entendre, et ce qui n'apparaît peut-être pas immédiatement, c'est que s'il y a une condamnation, il y a toujours à lire en filigrane, derrière la condamnation, un appel à la repentance. Dieu n'est jamais quelqu'un qui condamne définitivement, mais il est toujours quelqu'un qui menace quelque part de condamner, mais qui ouvre une porte à la repentance. Et si ce matin nous entendons cet avertissement et que nous nous disons « ça m'interpelle, le Seigneur me parle », eh bien mon frère, ma sœur, tu n'es pas sous le coup de la condamnation de Dieu. Cette menace du jugement t'amène à te repentir, à changer et à entrer dans la grâce du Seigneur. On pourrait se demander, est-ce que les richesses sont automatiquement condamnables? Est-ce que c'est mal d'avoir de la richesse? Dans l'Écriture, il n'y a pas de condamnation de la richesse en tant que telle. Et même dans l'Ancien Testament, elle était vue parfois comme une bénédiction que le Seigneur accordait. Ce qui est condamné, ce sont les abus. Ce n'est pas l'argent en tant que tel, mais le risque avec l'argent est grand. Le risque est de se laisser piéger, de chercher à avoir un niveau de vie toujours plus élevé, de laisser se creuser l'écart avec les plus pauvres. Le risque avec l'argent, c'est qu'on n'en a jamais assez, qu'il nous faudrait toujours un tout petit peu plus pour être satisfait. Nous avons une maison, il nous faudrait un château. Nous avons un château, il nous faudrait encore un donjon. Nous avons le donjon, il nous faudrait encore une muraille. Il y a toujours quelque chose qui manque. Or, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, nous dit l'Écriture. Si l'argent est un piège, il ne faut pas croire non plus que l'Écriture idéaliserait la pauvreté. Comme si la pauvreté avait en soi une forme de valeur rédemptrice. Comme si elle pouvait nous donner le salut. La pauvreté n'est pas une vertu en soi. Et tous les pauvres ne sont pas des justes aux yeux de Dieu. Le pauvre est également un pécheur. Il a également besoin de la grâce de Dieu. Et parfois, au cœur de la pauvreté se cache malgré tout de l'avidité, l'envie de posséder, la soif de la richesse. C'est pour ça que l'Écriture nous donne une voie de la sagesse. Et cette voie de la sagesse, on la trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 8. C'est une prière qui dit « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » C'est cela la voie de la sagesse. Parce que si j'étais dans la pauvreté, je serais peut-être conduit à voler. Si j'étais dans la richesse, je serais peut-être conduit à renier le Seigneur. Parce que la richesse me suffirait. C'est elle qui me procurerait mon salut. L'Écriture nous dit, cherche plutôt un style de vie simple. Sois généreux avec ce que Dieu te donne. Soutiens l'œuvre de Dieu. Vis l'entraide avec les autres. Quand nous avons de l'argent, nous avons du pouvoir. Nous avons du pouvoir sur les autres généralement. Quand nous avons de l'argent, nous croyons aussi avoir de la sécurité. Et plutôt que de placer notre sécurité en Dieu, nous risquons de la placer sur notre compte bancaire. Mais l'Écriture nous amène à être libres par rapport à l'argent, à ne pas nous attacher au bien. Et Paul est un merveilleux exemple. À un moment donné, il s'exprime aux Philippiens en disant qu'il a appris à vivre dans la liberté par rapport à l'argent. Il dit ceci, « Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. Mon secret, c'est de m'accommoder à toutes les situations, à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Paul n'a pas choisi sa situation de vie. Le fait qu'il ait beaucoup voyagé l'a amené parfois à vivre vraiment dans l'abondance et d'autres fois à ne pas avoir assez à manger et à devoir subvenir à ses besoins en fabriquant des tentes parce qu'il n'avait plus assez pour se nourrir. Mais il était libre, libre par rapport à ce qu'il avait. J'ai dit que l'argent n'était pas mauvais en soi, et produire des richesses n'est pas non plus mauvais en soi. Nous pouvons accroître nos biens. Nous pouvons avoir des entrepreneurs chrétiens. Nous pouvons avoir des gens qui font fructifier leur argent. Le problème, c'est d'utiliser l'argent comme moyen d'oppression, comme moyen d'enrichissement personnel de manière indue. Et Dieu un jour nous demandera des comptes sur comment nous avons géré ce qu'il nous a confié. Et c'est là qu'on en arrive au verset 2 de Jacques 5, qui dénonce fermement l'injustice. Quand Jacques dit « Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera comme un témoignage, elle dévorera votre chair comme un feu. » Là encore, si on connaît un peu l'Ancien Testament, on entend l'écho des prophètes. On entend Ésaïe qui dénonçait ces gens qui avaient maison sur maison. On pense à Amos qui condamne le luxe, l'opulence. Écoutez Amos, c'est un texte fort aussi. Amos 6, « Malheur à vous qui vivez bien tranquille dans Sion, et vous qui vous croyez bien en sécurité sur la montagne de Samarie, vous voilà allongés sur des lits incrustés d'ivoire, vous vous vautrez sur des divans, vous mangez des béliers choisis dans le troupeau, des veaux de premier choix pris dans l'étable, vous buvez votre vin à pleine coupe et vous oignez vos têtes de parfums raffinés. Mais la destruction qui menace tout le royaume de Joseph ne vous affecte pas. C'est pourquoi vous irez en déportation et s'en sera fini des banquets des fêtards vautrés sur leur divan. » Dénonciation très forte de l'opulence, de gens qui ne se préoccupent pas du bien de leur peuple. Et quand on a de la richesse, on a du pouvoir, et ce pouvoir souvent s'accompagne d'orgueil, d'arrogance, de malhonnêteté, de violence. J'ai connu une situation où des personnes qui vivaient dans l'aisance ont engagé des employés de maison. Ils avaient une belle villa et ils avaient besoin de gens qui s'occupent de leur maison. Le problème, c'est qu'ils ne donnaient même pas le minimum à ces gens pour vivre, que ces gens étaient à leur merci jour et nuit, qu'ils pouvaient faire appel à n'importe quel moment de la journée à leur service. Ils devaient être disponibles 24 heures sur 24. Est-ce que ça, ce sont de saints rapports? Ou est-ce que c'est de l'esclavage? Certaines personnes n'ont pas le droit, n'ont aucun droit sur le sol français. Elles ne peuvent pas non plus retourner dans leur pays. Elles n'ont aucun moyen de se défendre. Et du coup, comme elles sont vulnérables, qu'elles cherchent absolument du travail, eh bien elles sont prêtes à prendre tout ce qu'on va leur offrir. Et ces gens-là sont extrêmement vulnérables et il y en a beaucoup. Et facilement, ces gens-là sont exploités. On profite d'elles. On leur demande un service, on les paye pour ce service, mais après on leur redemande un deuxième, un troisième, un quatrième service sans plus les rémunérer parce qu'on considère que ça faisait partie du service d'origine. Ces gens-là sont frustrés de leur salaire et ce salaire crie l'injustice jusqu'auprès de Dieu. Et malheureusement, Jacques observe que jusque dans l'Église, il y a ce type de relation injuste. Qu'il y a des chrétiens qui exercent une forme de violence dans leur manière de se montrer intraitable dans les affaires. De tout faire pour gagner plus. Quitte parfois à mettre le couteau sous la gorge des plus faibles. Et parfois, il n'y a pas besoin d'être très riche pour se montrer injuste. Dans la manière dont nous négocions les tarifs avec des artisans, dont nous exploitons des gens sans papier, dont nous trompons l'État, dont nous achetons des produits fabriqués par les enfants. Et c'est pour cela que l'avertissement de Jacques résonne toujours de manière aussi actuelle au XXIe siècle quand il dit « Votre richesse est pourrie ». Elle est pourrie si elle n'est que ça, ou si elle n'est que le fruit de l'injustice. Jacques parle de la richesse en prenant l'image des mites. La mite des vêtements, c'est un papillon assez terne, la mite. Elle est inoffensive pour l'humain. Le problème de la mite, c'est qu'elle va pondre des œufs dans des endroits qui vont servir ensuite de garde-manger pour les futures larves. Et la mite aime bien les endroits un peu sombres, et particulièrement les vêtements, les textiles. Et quand les larves grandissent, elles s'attaquent avec voracité à tout ce qu'elles vont trouver sous la main, dans leur nid, et notamment donc vos vêtements, rideaux, étoffes, canapés en tissu, tapis, fourrures. Tout cela sera bon pour elles. Eh bien, Dieu va s'attaquer aux richesses injustes comme les mites s'attaquent aux vêtements. Un jour, nous devrons quitter cette terre, nus, nous dit Job, sans rien pouvoir prendre de tout ce que nous aurons accumulé. Et tout ce que nous aurons mis de côté et qui n'aura pas servi à faire le bien va servir de témoignage devant le tribunal de Dieu pour montrer notre égoïsme et pour montrer ce que nous n'avons pas fait. Et Jacques nous dit que l'or va rouiller. Je ne sais pas si l'or rouille réellement, mais c'est une manière de dire que l'or qui n'est pas utilisé est inutile. L'or et l'argent ne peuvent pas remplacer ma relation avec Jésus. Cet or inutilisé va témoigner contre moi et va amener sur moi le jugement de Dieu. Jacques, c'était le frère de Jésus. Il a entendu son frère prêcher, notamment quand Jésus a prêché sur la montagne son fameux sermon. Et il y a une ressemblance frappante entre les paroles de Jésus et les paroles de Jacques. Qu'est-ce qu'avait dit Jésus, Matthieu 6 ? Il avait dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Jésus nous questionne, comme Jacques, où sont mes priorités ? Dans quoi est-ce que j'investis ? Est-ce que j'investis pour le temps présent ou est-ce que j'investis pour le royaume de Dieu ? Est-ce que mes richesses ont un impact positif sur la vie de la communauté, sur la vie de mes frères et sœurs, sur la propagation de l'Évangile ? Je me souviens de mon enfance avoir vu un livre qui relatait l'histoire d'un homme d'affaires qui, au lieu de donner la dîme, gardait la dîme. Il donnait le 90% de ce qu'il gagnait. Comme il avait assez d'argent, il pouvait vivre avec le 10% qui lui restait. J'ai eu un ami aussi qui a reçu de par sa famille un très riche héritage composé de millions de francs. Il a fondé une fondation, il a choisi avec les intérêts de sa fortune de subvenir aux besoins des plus pauvres, notamment au travers d'associations chrétiennes qui œuvrent au niveau de la pauvreté. Il n'a pas utilisé tout son argent pour arriver à zéro, il a choisi de garder cet argent mais de le faire fructifier pour le royaume. Là, il y a une utilisation juste de la richesse. Mais quand on est dans la situation que dénonce Jacques, au verset 3, il dit « Dans les derniers jours, ce sont les jours inaugurés depuis l'avènement de Jésus-Christ jusqu'au temps dernier, les jours dans lesquels nous sommes », il dit « Dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors ». Et malheureusement pas des trésors dans les cieux, mais des trésors sur la terre. Et Jacques dit, mais quel gâchis ! Il y a tant d'églises, tant d'œuvres chrétiennes qui peinent à avancer dans la mission que Dieu leur confie parce qu'elles manquent de ressources. Il y a tant de missionnaires, tant de pasteurs dans le monde qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour vivre et qu'ils ne peuvent pas se consacrer pleinement à leurs tâches parce qu'ils doivent gagner leur vie autrement. Il y a des personnes dans certaines églises qui gagnent jusqu'à 1000 fois le salaire du pasteur. C'est un exemple qui m'a été rapporté de la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'Évangile ne doit pas transformer nos manières de penser ? Est-ce qu'il ne doit pas remettre de l'ordre dans nos priorités ? L'Évangile concerne tous les aspects de ma vie, y compris les finances et l'argent. Alors, j'aimerais conclure. Nous avons ce matin un texte grave, un texte solennel, qui nous avertit que nos richesses peuvent être pourries si nous ne les utilisons pas pour la gloire de Dieu. Mais il faut entendre aussi un encouragement dans ce texte. Tous ceux qui ont été à la merci de gens qu'ils ont exploités doivent savoir ce matin que le Seigneur sait, que le Seigneur voit, que le Seigneur va rendre justice, qu'un jour tout sera mis en lumière et que Dieu rétribuera chacun selon ce qu'il a fait. Mais si le Seigneur m'accorde des richesses, il me questionne sur ce que j'en fais. Est-ce que cet argent abîme les relations dans l'Église, comme c'était le cas pour les églises auxquelles Jacques s'adresse? L'argent avait abîmé les relations. Il avait dressé des barrières entre les gens. Il avait conduit à du favoritisme. Il a provoqué des tensions et des conflits. Il a contribué à éloigner les gens au lieu de les rapprocher. Quel est l'impact de mon argent sur la vie de l'Église? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois réajuster dans ma vie? Vous savez, l'Évangile est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous repentir, changer de cap et continuer avec le Seigneur. Et ça, quand quelqu'un se repent, c'est toujours une bonne nouvelle. Et si la parole de Dieu ce matin me montre que mon chemin était faux, que j'ai mal agi, que l'argent a pris trop d'importance dans mes choix, que je me suis installé dans trop de confort, que j'étais injuste dans mes relations avec mes frères et sœurs ou dans mes relations d'affaires, bien je suis invité à demander pardon. Invité à changer de vie. Et si j'ai souffert d'exploitation, si j'étais victime de l'injustice des gens, eh bien Dieu voit. Chers frères et sœurs, aucun domaine n'échappe à la souveraineté de Dieu. Laissons-nous diriger par lui. Tous les domaines de notre vie lui reviennent, y compris l'argent et les richesses. Plaçons notre confiance en Dieu. Investissons pour le royaume de Dieu et non pas dans des richesses que nous ne pourrons pas emmener dans l'éternité. Amen.